Les productions Nuit d'Afrique invitent tous les artistes de musique du monde au Canada à s'inscrire à la 11e édition des Silidor de la musique du monde. Ce prestigieux concours vitrine est une chance unique de vous faire découvrir et de remporter de nombreux prix. Vous avez jusqu'au 15 décembre 2016 pour soumettre votre candidature. Faites vite, les places sont limitées. Pour plus d'informations, www.silidor.com.
Ça a commencé avec le Montignac. Après ça, il y a eu l'Oriental puis l'Occidental. J'ai aussi essayé le Paléo, le 5-2, le Californien, le Atkins. Des régimes, j'en ai fait un puis un autre. Mais je pensais jamais qu'un jour, je serais rendu au régime forcé.
Le visage de la pauvreté change. Jusqu'au 24 décembre, c'est la grande guignolée des médias. Donnée chez Maxi, Provigo, Jean Coutu et Via Capital.
Hey, j'ai un plan pour voir et écouter des shows gratuitement toutes les semaines. Le Studio, c'est le podcast live de Choc.ca. Toutes les semaines, retrouvez le meilleur de l'alternative musicale québécoise pour une session live et une entrevue. Vous pourrez suivre l'émission tous les mardis à 17h30 en vidéo direct sur le Facebook de Choc.ca et en audio sur le site internet de la station. Et si vous avez manqué l'émission, pas de problème, retrouvez Le Studio sur nos plateformes podcast et en vidéo sur YouTube. Musique.
Danscussion à la radio, là où l'on parle de danse, de culture et d'art du mouvement.
Avec les artistes, les travailleurs culturels, les spectateurs, les amoureux du spectacle.
Tout le monde en parle.
Tous les mardis de live sur choc.ca.
Maudit que je m'endors. Je pense que j'ai besoin d'un café. Téléphone intelligent, dis-moi où est le Tim Horton le plus proche.
Fuck le Tim Horton.
Quoi?
Va donc au Salon G à la place au Salon G. Le café est vraiment bon, tu vas l'apprécier. C'est pas juste un jus de boîte que tu bois en attendant qu'il soit l'heure de tomber dans le jean à cochon.
Situé au niveau métro du pavillon Aquin, le Salon G, c'est la place pour te sustenter.
Bonsoir tout le monde, bienvenue à Pop en Stock. Ce soir, c'est une émission un peu spéciale parce que c'est un retour sur l'épisode de la semaine dernière qui a été diffusé, mais qui en fait qui a été enregistré au Comic-Con de Québec par l'autre moitié de Pop en Stock. Moi, je travaille les fins de semaine, donc je peux pas y aller. Mais Jean-Michel Bertrand m'avait animé ça de main de maître. Donc, c'était un épisode sur les fandoms problématiques. Aujourd'hui, on fait un retour sur les fandoms problématiques. Je m'appelle Hélène Lorrain, c'est moi ce soir qui anime l'émission et je suis entourée de trois femmes. Donc, on est quatre femmes ce soir autour de la table. Je suis très heureuse. Rachel Hippolyte, une habituée de l'émission. Bonsoir.
Bonsoir, Hélène.
Elisabeth Simpson, également. De toute façon, on est toutes des habituées de l'émission.
Quand même.
Vraisemblablement.
Et Mégane Bédard, qui était justement aussi à l'épisode du Comic Con. Jean-Michel avait commencé son émission, son intervention en disant que tout le monde peut parler de fandom parce qu'on est tous un peu des fans et puis que finalement c'est un sujet qui est ouvert à tout le monde. Je suis tout à fait de cet avis et mais moi j'ajouterais que moi je me sens très mal à faire des généralisations de fans et de fandom. Mm-hmm. Donc j'imagine que ce soir on va parler à tout le moins pour ma part, justement je commence, je vais probablement toucher des sujets de mes propres fandoms, donc de ce pourquoi, ce de quoi? Rachel, aide-moi. Ce pourquoi je suis fan, ce de
pourquoi. Ce pourquoi tu es fan.
Merci.
Ça fait plaisir.
Et si je peux rebondir déjà sur ce que tu disais, en fait, par rapport à la généralisation aussi, c'est des situations comme ça quand tu fais de la généralisation. Du moment où est-ce que t'as des gens qui ne font pas la différence lorsque tu parles de systémie, si on parle de la question systémique ou si on parle d'une question genre les hommes sont comme ça ou les femmes sont comme ça, bon, ben, il y a une différence entre dire ça. Il y a une tendance générale systémique. Donc, tu sais, d'apprendre à faire la différence, c'est important pour le discours, je crois.
Et voilà. Ce soir, on va commencer en fait avec peut-être la question qui, moi, je veux, ben, à laquelle je veux participer depuis très longtemps et qui a été discutée lors du 100e épisode, ça a été discuté lors de les fandoms problématiques au Comic-Con et ça va être discuté ce soir et j'imagine qu'on va continuer à en discuter. C'est les nuances, les différences à faire entre geek, nerd et fan. Et on pourrait ajouter dork aussi à ce genre de mm-hmm. polarité-là. de continuum là, et ça fait plusieurs années que je vois le mot geek dérivé en quelque chose que je avec lequel je suis pas d'accord et je veux me vider le cœur ce soir. On parle beaucoup de culture geek. D'ailleurs, il y a des émissions qui sont consacrées à la culture geek au Québec. Puis moi, je trouve que les geeks être, en fait, c'est ça, c'est être geek. Un geek, c'est plus un rapport à un objet que des objets eux-mêmes. Je me considère moi-même comme une geek de l'histoire du rock. Ça, c'est un quand je dis ça, c'est que je suis bien comprise. Mais c'est si je suis pas une geek de Marvel, pourquoi c'est comme devenu une espèce de
synonyme un peu.
Oui, un peu, oui, c'est ça. Je sais vraiment pas pourquoi, puis ça me fait de la peine, voilà.
C'est comme si le mot avait un peu... sa définition avait été réduite à une certaine partie de la culture populaire qui est très, très populaire, comme, mettons, les bandes dessinées ou les jeux vidéo.
Oui, c'est vraiment bandes dessinées, jeux vidéo, Star Wars, des affaires d'espace.
C'est restreint,
là. Ben, je me rappelle que lors du centième, Jean-Michel avait souligné ça, tu sais, il disait que, tu sais, un geek, ça pourrait s'appliquer à n'importe quel objet, puis tu sais, il parlait de, par exemple, un geek de bière ou un geek de football, tu sais, qui avait justement souligné
notre plus grand geek étant probablement Paul Oud.
Un geek d'athlétisme.
Mais absolument. Absolument. Et son frère Pierre, un geek de Formule 1. Mais,
et de hockey.
Et de hockey. Mais tu sais, dans le fond, il parlait un peu de ça aussi, même si lors de la centième, on s'était limité, tu sais, on était revenu pas mal sur les thèmes qu'on entend lorsque les objets auxquels on associe le terme geek. Mais je parlais, tu sais, par rapport à l'Office de la langue française, c'est vraiment, en plus, c'est encore plus restreint parce qu'eux autres, c'était vraiment un féru d'informatique, tu sais. Totalement, oui. C'était, tu avais parlé de vider le cœur sur la culture geek. Moi, je me suis vidé le cœur sur la traduction de tous les termes de l'OQLF. J'ai eu bien du fun. Mais entre autres, ça, tu sais, c'est encore plus restreint que ça. C'est encore plus pointu que ça. Donc, effectivement, cette association-là de du mot geek à cette culture-là, est-ce que, ben, en même temps, ce rapport à l'objet-là, étant donné qu'il y a plusieurs, est-ce que le fait qu'il y ait plusieurs personnes qui aient le rapport au même objet n'en fait-elle pas une culture?
Bonne question.
On pourrait poser cette question-là aussi. T'sais.
Absolument. Puis ça pose la question plus large, c'est quoi la culture populaire?
Absolument.
Parce que souvent, culture geek est confondue à culture populaire, alors que les objets qui sont normalement considérés comme étant de la culture geek, la culture populaire déborde de ça, mais tellement.
Absolument.
Que ça pose la question, qu'est-ce que la culture populaire? Et je call tout de suite que ce sera le sujet de la 200e émission de Pop en Stock.
Ça en vient dans 79 épisodes.
Et voilà, merci. Moi, je vise grand, je vise haut, j'ai de l'ambition. Et c'est Pop en Stock.
On
se prépare. C'est ça, ouais, exactement. Et il y a aussi les questions de fans. Je pense, fans, est-ce que t'en avais parlé, le QLF fanatique? Non, genre?
Oui, entre autres. Oui. Effectivement, du fait d'être le fan comme étant fanatique de quelque chose.
C'est de la dérive.
Non, mais moi, j'avais trouvé ça grave, justement, parce que ça faisait...
Mais c'est très grave, oui.
Oui, non, mais c'est ça, c'est que c'est grave d'aller jusque-là, parce que, tu sais, on parlait justement de le terme qui peut être évolué à être plus grand que son sens initial. Ben, fanatique, il reste que... C'est un mot qui est devenu lourd.
Effectivement. Oui.
Pour plein de raisons, associé à, mettons, le fanatisme religieux. Est-ce que être un fan, tu sais, oui, t'aimes passionnément un objet.
Mais sûrement, ça peut être juste aimer quelque chose.
Ouais.
Ouais, mais le mot fanatique a un peu eu une connotation négative.
Exactement.
À cause. Notamment de tout ce que les exemples que tu mentionnes.
Oui.
Oui, pendant longtemps, en tout cas, tout le monde, je sais pas s'il y a un changement récemment, il faudrait que je fasse une meilleure étude que ça, mais quand on disait, oh oui, je suis fan de John Lennon, c'est pas le meilleur exemple que je trouve en ce moment, considérant qu'il a été tué par un fan, justement, un fan qui était vraiment dérangé mentalement, qui a des troubles de santé mentale. Mais justement, donc la question, je suis fan, moi j'étais fan de Queen pendant très longtemps, et le look que j'avais dans les faces des gens, c'était vraiment, est-ce que ça va bien, tu sais, est-ce que le trouble de santé mentale était tellement proche, juste dans la réception de, j'exprime mon bonheur d'aimer un groupe de musique fantastique, qui est encore fantastique d'ailleurs. J'aime encore beaucoup Queen. Par exemple, justement, je veux parler de mes fandoms, je me considère une fan de lutte. mais je ne suis pas une geek de lutte. Pas encore, peut-être ça va venir, mais il y a une question de connaissance qui est reliée
de
à ça.
De statistiques.
Et, tout est là, et là est la question de où est-ce que tu mets la barrière, est-ce que tu mets la frontière entre là, je suis une fan ou je suis une geek ou peu importe. Je vais donner un exemple. Mon père, à un moment donné, mon petit frère et moi, on était dans la même voiture. J'ai 16 ans de différence avec mon petit frère et plusieurs années avec mon père. Et bon, on est tous des au risque. Je veux pas tomber non plus dans les répétitions de la centième parce que je vais parler de Star Wars, mais rapidement là, c'est que t'avais mon père qui est un fan de Star Wars qui m'a inclus dans son fandom en me faisant écouter ça dès mon très 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 jeune âge. Et là, il y avait mon petit frère et moi, donc j'avais 24 ans, mon petit frère il avait comme 7 ans, je pense. Puis on était juste en train de s'ostiner sur des détails de questions pures et de questions genre vraiment un peu pas si intéressantes que ça, mais
rhetorical questions, comme
mais c'est ça. Puis là et là mon père il était comme bah là vous m'avez dépassé, tu sais. Et ensuite, mais moi je me ramasse avec d'autres personnes où je vais parler un autre exemple, c'est Harry Potter. J'ai lu tous les livres, j'ai vu tous les films, j'ai joué aux jeux vidéo, j'aime cet univers là j'aime en parler, j'aime me rassembler avec des gens pour en parler tellement j'aime ça. Mais je passe mon temps à me faire reprendre par des collègues plus qui ont juste été
plus érudits
sur la question. Et là c'est comme bon, ben c'est est-ce que je suis peu importe, est-ce que je suis juste une personne à l'extérieur de ça et qui regarde ce monde érudit là. Et c'est des questions qui sont intéressantes, mais en même temps je trouve qu'ils divisent, justement, comme pourquoi est-ce qu'on va nous accorder des badges de connaissances, des badges de ok là tu peux rentrer dans mon cercle de grands,
comme
de
dans
grands...
les scouts. Moi je trouve ça exactement trouve c'est une excellente solution.
Ouais, c'est une bannière avec
tu
des
deviens badges. Une Jeannette ou
ouais, c'est ça.
Personnellement ça met excessivement mal à l'aise parce que je trouve que justement je sais que ça a été une question qui s'est posée à Québec, le geek, le nerd, est-ce qu'il y en a un qui divise, est-ce qu'il y en a un qui est inclusif? Et je trouve que le plus important, en fait, c'est que quand on s'entend tous pour se dire que l'œuvre, peu importe notre statut de connaissance, peu importe notre statut d'admiration vers l'œuvre, j'ai envie d'en parler avec des gens autour de moi. Et si je me fais sortir de ces cercles-là, parce que je suis pas assez érudite ou parce que je suis une femme, c'est pas ça, ça fait que la connaissance elle se propage pas, ça fait que le plaisir se propage pas, tu sais, puis on se sent exclu de ces cercles là puis en tout cas moi je trouve que c'est une problématique dans les fandoms, justement.
Tu parlais je me rappelle justement que t'avais parlé des grandeurs nature, oui, lors du centième, c'est un bon exemple de ça. T'sais, tu soulignais le fait que tu sais, on peut te passer un costume ou dans le cas du jeu de rôle, on pourrait te passer des dés, que il y a cette collaboration là qui est possible. Et donc le fait que même si t'en connais moins ou que tu n'as pas tous les éléments, il y a des mentors, il y a des gens qui peuvent te former là-dessus. Donc c'est pas nécessairement exclusif. Même si le fait d'être nerd ou geek, peu importe, c'est la façon dont tu accueilles les gens dans ton intérêt ou dans ton étude à l'objet.
Ben c'est très bourdieusien de parler de ça, en fait, parce que lui-même parle de distinction, donc dans une logique de distinction à l'œuvre par les goûts, justement. Que si on aime quelques mettons la musique classique, ça nous distingue de ceux qui n'aime pas la musique classique. Et c'est nous, le classeur se classe. La manière de décrire de Bourdieu est très... les structures structurantes et structurelles qui structurent le champ. Blablabla. Mais c'est ça. Donc, le classeur se classe à travers son classement. Voilà, très beau Bourdieu. des objets culturels.
Je perdais des points en français pour ça quand j'étais jeune.
Ouais.
Si je répétais trop les mêmes mots.
En tout cas, Bourdieu aurait pas une très bonne note avec cette prof.
Et c'est reconnu comme étant un grand intellectuel. T'aurais dû dire ça.
Dans les mêmes notes de votage, t'aurais été correct.
Et ben c'est un peu ça qui arrive, même autrement dit, cette logique-là est recréée dans un groupe d'intérêt, tu sais, même un groupe d'intérêt, donc c'est même plus une question de classe sociale, puis de je veux vraiment pas être associé aux pauvres là, c'est une question de je veux pas être associé à d'autres catégories de personnes qui pourtant aiment la même chose. Donc, il y a eu toute une création de chasse gardée à travers ça. Qui, ben là, je trouvais ça très drôle d'avoir des badges, là. Mais parce que je pense que ça dirait à tout le monde, comme, je suis rendue là. Mais c'est quand même très inquiétant.
Mais si ça devient, genre, je suis rendue là, viens dans mon cercle et je vais t'apprendre comment avoir un badge toi aussi maintenant. C'est quelque chose que je trouve beaucoup plus stimulant comme environnement, beaucoup plus sain, beaucoup plus agréable à côtoyer que si c'est comme j'ai fait ça de moi-même, je suis un self-made man de ma connaissance. Alors va faire tes classes et reviens me voir uniquement. Alors c'est très élitiste puis moi j'aime pas
bien ça. C'est la logique d'exclure les gens parce qu'ils ont pas les mêmes connaissances, mais pourquoi on comparerait justement notre relation à un objet puis on exclurait des gens à partir de ça? C'est complètement absurde, mais ça arrive, puis c'est pour ça qu'on est ici aujourd'hui.
Ben, c'est ou d'exclure des cultures, parce que si on restreint le phénomène geek à ce que tu nommais, les jeux vidéo, les jeux de rôle, Star Wars, les super-héros, ça exclut toute autre sous-culture ou intérêt à l'objet qui serait la musique rock, la politique, je veux dire, je connais toutes les circonscriptions par cœur et je pourrais dire les résultats du référendum de 95 et certains résultats. Là,
wow.
Je suis de ce genre de personne.
C'était la poloute des référendums.
Oui. Oh, oui, absolument.
Et l'athlétisme, justement, aussi, l'athlétisme.
Oui, on parlait de l'athlétisme, la Formule 1. Le sport, en général. Et que ça exclut ça. Si on définit le phénomène geek comme étant un phénomène qui est relié uniquement au thème qu'on entend, quand on évoque ce thème, traditionnellement.
Les objets
qu'on évoque, codés, c'est ça. Il y a plein d'autres sous-cultures qu'on exclut de ce terme-là. Donc, tu disais que tu étais en désaccord avec la culture, avec le terme culture geek à cause de ça. C'est aussi une certaine forme d'exclusion, tu sais, de revenir sur le fait que le geek est nécessairement inclusif. C'est pas certain si on se restreint uniquement à la définition classique qu'on a des rapports aux objets stéréotypés.
J'avoue que j'ai pas super suivi.
Non, mais ce que je veux dire...
Mais moi, j'ai compris.
C'est bon.
Ouais, c'est ça, comme... Suis-je exclu? OK.
Non, pas toi! Non, ce que je veux dire, c'est que tu n'exclus pas.
Non, la compréhension. Mais ça sent que ça sert, là.
Si je peux faire une technique d'intervention, je vais reformuler.
Oui, c'est une
technique pour savoir si on a bien compris.
C'est tout à fait. Le pire, c'est que j'applique ça dans mes cours.
Ben, j'espère.
Mais
j'ai commencé un nouveau hashtag aujourd'hui pour répondre à des gens. C'est hashtag Hello, I'm a social walker.
Okay.
Pour juste dire à des gens, comme, pour vrai, comme, on peut s'ostiner longtemps, mais je pense que I know my shit. Mais c'est...
Parenthèse, mais je trouve ça vraiment le fun parce que c'est un genre de hashtag qui peut être traduisible ou adaptable à plein de situations. Là.
Oui. Hello, je suis un informaticien.
Hello, comme... I'm a PhD. Oui.
C'est ça. c'est une de mes réponses au mansplaining que j'ai trouvé, mais voilà. Et
j'approuve.
Puis de toute façon, je dis que je l'ai écrit ce matin, mais il y a probablement 10 millions de personnes qui l'ont écrit avant moi. Mais tout ça pour dire, reformulons. Dans le fond, c'est que si on garde les thématiques, les objets traditionnellement que le commun des mortels associe à la culture geek, c'est en soi exclusif parce que on n'inclut pas toutes les dimensions de le thème plus pur que Hélène revendiquait.
Exactement, c'est pile poil ce que je veux dire.
Donc tu viens de dire qu'il y a plusieurs niveaux d'exclusion dans la culture geek. Je reformule la reformulation. Donc qu'est-ce qui est considéré geek même, mais aussi les personnes peuvent entre guillemets en faire partie et ceux qui sont exclus justement de cette logique de distinction par rapport à leur connaissance ou par rapport à leur rapport aux objets. Qui m'amène à l'éléphant dans la pièce des fandoms en général, qui est ce que j'ai appelé le politique. Donc, on parle souvent de politique, la politique, mais là, le politique est, pour un terme, une définition très facile que j'ai appris lors de mon bac, c'est le bien vivre ensemble, le collectif, tout simplement. Et dans le politique, il y a les notions, donc, d'inclusion ou d'exclusion de groupes symboliquement opprimés, ou pas juste symboliquement opprimés, réellement opprimés. Les logiques de sexisme, les logiques de racisme et d'homophobie font partie du politique. Et dans les fandoms, il y a souvent eu, depuis quelques années, à tout le moins, des problèmes.
Des misogynes, disons-le.
Oui,
les problèmes existent depuis longtemps, mais mais oui, on commence à tenir tête depuis seulement quelques...
Oui, c'est ça. En tête...
De crier plus fort, en fait.
Exactement.
Tenir tête, mais...
Tout est dans le crier plus fort.
En tête de liste, il y a le Gamergate, qui était le Talk of the Town of Twitter de là, 2 ans, il me semble, c'est à l'automne 2014.
Qui fait encore entendre de ses échos aujourd'hui même.
Absolument. C'est le seul exemple auquel je pense qui est vraiment très, très, très fort parce qu'on en a énormément parlé. Il y avait le hashtag, il y a eu des échos ici au Québec à travers des interventions de profs de jeux vidéo, notamment à la Sphère, des amis à moi. Mais il y a d'autres occasions aussi quand James Bond, en fait, celui qui le fait en ce moment, il a décidé que c'est son dernier film, puis il y a un acteur noir dont j'oublie
Idriss Elba.
Merci, qui a été considéré et ça, il y a vraiment une frénésie, un peu comme si tu mets une goutte de sang dans un aquarium.
Quand Hermione Granger a été castée noire dans la pièce de théâtre. Là,
oui, tout à fait, merci.
Ou qu'il y avait l'inclusion de films dans Star Wars.
Ah oui, c'est vrai, ça aussi, mon Dieu, un Stormtrooper noir.
Noir, absolument.
My God!
Ça a été un scandale.
Alors que, mon Dieu, c'est un très bon rôle.
Mais oui.
Mais le scandale, est-ce que, par curiosité, est-ce qu'il venait à cause que, vu que les Stormtroopers sont traditionnellement des clones, puis là, c'est comme, ben, dans le fond, peut-être que tous les Stormtroopers sont noirs dans ce canon-là qu'on va commencer. Je comprends pas le scandale.
Moi non.
Je pense qu'on s'est
En fait, il y a un scandale, mais c'est toujours justifié, justement, par les idées de canon puis de fandom.
Ouais.
Donc, les jeunes fanboys, parce que c'est souvent des fanboys, peut-être qu'il va y avoir des fangirls qui sont racistes aussi, mais c'est « Ah, ben Finn peut pas être noir parce que c'est des clones, mais on sait pas, il y en a peut-être plus des clones. »
Non, mais c'est ça, peut-être que c'est dans une histoire qu'on pourrait écrire, on va demander à celui qui fait toutes les connexions du canon, puis on va juste dire comme « Ben là, panne d'où ça? » Puis il va faire « Ouais, ben les clones, ils ont éclaté avec telle guerre, puis là, maintenant, c'est tous des individus. »
C'est exactement la même réaction qu'il y a eu quand Captain America est devenu noir. J'ai vraiment pas beaucoup de connaissances là-dedans, mais c'est son coéquipier qui est devenu Captain America. Et là, encore une fois, les white fanboys ont crié au scandale. En fait, mais non, mais Captain America, ça peut être personne d'autre.
Les white fanboys, ils doivent capoter avec Avengers en ce moment. Oui. Puis, je me rappelle pas, je sais pas, c'est pas ma spécialisation, mais je pense que tous les personnages des Avengers sont en train de devenir un des symboles de justement ce qu'on parlait, les gens qui sont qui font partie des communautés traditionnellement opprimées. Ou virtuellement ou pas virtuellement opprimées.
Historiquement.
Mais tu sais, la même chose dans les fanfics, où est-ce que dans le fond, si t'es un personnage gay, tu dois être dans la vision d'une certaine communauté de fans de gens qui écrivent des fanfics. Si ton personnage dans la série originale ou dans l'œuvre originale est gay, il doit nécessairement être gay. Tandis que dans un personnage straight peut être de n'importe quelle orientation sexuelle.
Et si possible gay, s'il vous plaît. Là,
ça serait le fun. Oui, et si possible gay, exactement. On insiste énormément sur... Non, mais t'avais raison, on insiste énormément sur une espèce d'ouverture à la diversité le plus possible.
Mais je trouve ça intéressant ce que tu dis, parce que je lis pas beaucoup de fanfiction, mais une des premières fanfictions que je me suis rendu compte qu'il existait, c'est justement le ship de Malfoy et de Harry Potter.
Oui.
Mais je me dis, c'est à quelque part, ça doit être normal de vouloir créer ces images-là, parce que Harry Potter est un univers straight as hell.
Oh, je veux dire,
c'est très straight, puis c'est très, tu sais,
excepté pour Dumbledore.
Oui, mais même à ça, mais... quand ils ont dit que Dumbledore était gay, ça a fait un Dumbledore était gay.
Mais
c'est comme,
mais il y a aussi le fait que l'univers d'Harry Potter est très straight, mais J.K. Rowling depuis une couple d'années, surtout avec Fantastic Beasts, fait des hints de plus en plus pour comme dire, ah, mais on essaie de montrer un peu plus la communauté LGBT, on essaie de... Fantastic Beasts, c'est un film qui hint le fait que le personnage est... C'est comme une métaphore. Il y a une homosexualité refoulée, puis la magie, quand elle la refoule, elle explose, puis ça peut détruire une personne, de la même façon qu'une homosexualité refoulée, ça l'explose, puis ça peut détruire une personne, puis ça peut l'amener au suicide aussi. Là.
Ouais.
Moi, j'ai trouvé ça intéressant. Mais
c'est sûr que là, on va voir, si possible, on va voir les deals Dumbledore, Grindelwald.
Ouais, c'est supposé
donc,
arriver.
C'est supposé arriver. Donc, si on voit ça, éventuellement, ça va teinter la série. Ça va être probablement l'enjeu qui va teinter la série. Mais tu sais, t'as d'autres personnages aussi dans d'autres œuvres. Autre œuvre où on a voulu inclure la communauté LGBT ou du moins juste la revendiquer comme ça avec justement X-Men Days of the Future Past, où Sir Ian McKellen il était comme ça me tente pas vraiment de venir le faire, puis il a dit non, il faut que tu viennes parce que les mutants c'est comme les gays, ils sont opprimés puis on veut pas d'eux autres, mais c'est des gens qui se battent pour que les gays soient acceptés dans la paix et tout ça, puis il a fait comme ah ben t'as raison, je vais venir d'abord. Donc c'est important de faire ces démonstrations-là, je pense.
Mais c'est aussi de prendre la parole en public sur le sujet.
Exactement.
Ce qu'on faisait pas avant, ce que ça se fait dans les fanfictions, on ship des personnages, parce qu'il y en a pas, on dit, des personnages gays à la TV ou c'est dans les bandes dessinées. Ça manque.
Ça c'est manque pour ça beaucoup.
Comme tu disais, je suis parfaitement d'accord avec toi, c'est pour ça qu'on fait du shipping entre des personnages qui sont canoniquement straight.
C'est d'avoir une certaine action aussi là-dessus, c'est-à-dire si tu écris une fanfiction où est-ce que tu mets en scène un personnage gay ou tu transformes un personnage straight en un personnage gay, c'est aussi d'avoir une certaine forme d'appropriation et de faire voilà, je mets de l'avant mon identité. Exact.
Oui.
La représentation, l'identité que je veux exprimer là-dessus, la même façon que mettons un personnage pourrait être noir, admettons, puis ce serait une façon de dire voilà, je veux mettre de l'avant cet aspect-là de mon identité. Par contre, il y a certaines dans toute la communauté des auteurs de fanfic, il y en a aussi qui justement ne sentent pas, même s'ils sont des personnages, des personnes traditionnellement opprimées, ne ressentent pas le besoin que le personnage soit représentatif de leur identité. Tu sais que des noirs qui ont aucun problème à écrire des personnages blancs, par exemple, ça va pas nécessairement ensemble tout le temps non plus.
Mais tu sais, pour revenir aussi sur la question de la représentation, tu sais, on s'amusait finalement, il y a pas de garçons autour de la table, mais on a quand même des représentants de plusieurs communautés. Moi en tant que membre de la communauté LGBTQ, je suis comme c'est trippant de voir qu'on va commencer à avoir plus de personnages de cette communauté là. Mais toi Rachel, comment tu te sens? Est-ce que tu te sens représentée?
Hashtag I'm a social worker.
Tu sais, en tant que en tant que personne of color de la journée, est-ce que je me sens représentée? C'est une excellente question. Quand une des anecdotes que j'avais racontée lors du 100e épisode, c'était le fait que quand Finn, le personnage de Stormtrooper et noir est arrivé, j'étais
dans cette petite fresque qui s'appelle Star Wars.
N'est-ce pas? Merci. Bon, on s'entend, j'étais adulte, là, ça fait quoi? C'est l'année passée que le
film
est
sorti? C'est l'année passée,
Bon, tu sais, j'étais dans la trentaine, là, et donc, j'aurais vu ça il y a 15 ans, puis j'aurais fait, oh, l'objet que j'aime, la science-fiction, peut inclure des personnes de couleur.
C'est de la science-fiction de mainstream, là, parce qu'il y a tout un pan de Afrofuturism.
Absolument. Avec Octavia Butler, entre autres, où est-ce que, justement, lorsque j'ai commencé à lire du Octavia Butler, ça a été pour moi une révélation, parce que ça a fait enfin deux parties de mon identité se rejoignent.
T'as capoté.
J'ai capoté ma vie. Et j'aurais lu ça, j'ai lu ça il y a quelques années, il y a peut-être 3, 4, 5 ans. J'aurais lu ça adolescente, ça m'aurait donné une toute autre perspective. Octavia Butler, une de ses grandes influences a été Dune. Œuvre dont j'ai parlé en onde ici. Puis, j'aurais su ça à l'époque que j'avais lu Dune, j'aurais fait « Mon Dieu, OK, ceci... » C'est pas... La représentation est complexe parce que il y a à la fois les personnages, où est-ce qu'on ne voit pas de gens de notre communauté mis de l'avant, mais il y a aussi toute la question du langage, de l'exclusion de la culture geek par la langue, par la façon de s'exprimer. Une des premières affaires que j'avais lues lorsqu'on avait parti le sujet de la représentation...
Les problématiques
de fandom et tout ça. Puis on prévoit cette émission-là depuis vraiment des mois,
c'est
en
vrai.
Fait. Sérieusement. Puis une des premières affaires dont je me suis souvenue et que j'ai voulu relire, c'était une étude qui avait été faite par l'Université de Californie à Santa Barbara.
Que ça me tente de chanter la chanson.
Ne le fait pas, là. Non. Mais où est-ce que c'était une prof en linguistique qui analysait la langue nerd et qui avait pris différentes sous-communautés pour voir le rapport de l'appropriation de ces communautés, de ces sous-communautés-là au nerdness. Et si les Asiatiques, eux, ne sentaient pas nécessairement de tiraillement et se sentaient totalement accueillis mm-hmm. dans l'appropriation de cette langue-là, chez les gens de la communauté afro-américaine qu'elle avait interrogée, ce tiraillement-là, il est plus présent. Parce que dans le stéréotype de la langue nerd, c'est une langue plutôt soignée, où est-ce que il y a une certaine forme de précision aussi, puis l'exclusion de slang qui serait plus associé à une culture noire. Où est-ce que, mettons, je sais pas moi, yo serait pas très bien perçu, par exemple. Mais que ces gens-là, les blancs qui ont été interrogés, disaient, ah, oh, mais on veut pas s'approprier ces termes-là parce que ça serait une forme d'appropriation culturelle.
Donc, là, les Blancs veulent pas s'approprier le slang associé aux Afro-Américains.
Exactement.
Et les Afro-Américains se sentent tiraillés d'adopter le langage nerd.
Oui, okay. Exactement. Mais en même temps, tu sais, de cette volonté-là de groupe blanc là, qu'elle avait interrogé, mm-hmm. de vouloir, non, on va pas faire d'appropriation culturelle et donc ça serait bienveillant. Mm-hmm. Mais en même temps, le fait que cette langue-là est pas là, cette langue plus populaire, traditionnellement noire, soit pas là, ça peut aussi créer comme une certaine forme d'exclusion. Mm-hmm. D'autant plus que dans la culture nerd, il y a tout un langage qui est aussi populaire et très associé. Là, ce n'est pas seulement le fait de parler une langue précise, c'est le fait de la présence qu'un slang, les noobs, et ainsi mm-hmm. de suite. Donc, OMG. C'est quand même relativement contradictoire aussi.
Ouais. Ça me fait réfléchir à ce que tu dis par rapport à justement, à ce que je discutais tout à l'heure, je nommais Tuck Kitchen, par exemple, mais mm-hmm. là, je viens de repenser aussi, je crois, Quentin Tarantino qui avait eu des critiques par rapport à « Ah, regarde comme Quentin, il pense qu'il comprend les Noirs », ou par exemple, t'avais Eli Roth qui disait souvent « Ben là, c'est comme ça qu'ils parlent, les jeunes ». Fait que, tu sais, il disait des affaires comme « Les jeunes, ils disent, genre, ils sont super, dans le fond, ils sont homophobes dans leur langage, mais c'est... » Et c'est de se dire, comme, des fois, il y a des gens qui vont essayer, mais qui vont être maladroits, puis de facto, quand ils sont maladroits, ils vont se faire critiquer, puis après en tout cas, moi, je me considère comme quelqu'un qui ne veut plus essayer de rentrer là-dedans, puis peut-être que c'est un exercice intéressant, que ça serait de justement de peut-être comme poser plus de questions, mais en même temps, même si je posais des questions sur mon langage, ah ben là, je peux-tu dire yo, parce que je vais-tu m'approprier quelque chose, parce que si toi, tu me dis non, mais en même temps, toi, tu n'es pas la représentante de ta communauté.
Absolument. Le blackface est un excellent exemple de ça. Il y a plusieurs personnes de la des communautés noires qui, eux, disent ce n'est plus actuel, cette question-là, tandis qu'il y en a plein que c'est le contraire, qui mm-hmm. disent c'est encore une question pertinente. Je me range à la deuxième catégorie, mais je connais des gens que c'est plutôt la première.
Ou tu sais, des gens qui vont dire ben là, si tu fais du yoga, tu t'appropries la culture. Et des gens, le meilleur exemple, c'est que je pourrais nommer, j'ai une collègue de travail qui est d'origine maghrébine, puis qui je lui ai dit que j'avais une djellaba. Puis elle a dit, ben, tu devrais venir au travail avec ta djellaba. Puis j'ai dit, ben non, je peux pas. Je peux pas sortir de chez nous avec ma djellaba. De quoi j'aurais de l'air, la petite blanche avec ma djellaba. En tout cas, moi, je trouve que j'aurais de l'air comme un peu...
insensible.
Puis là, c'est ça. Puis là, j'ai dit, oui, mais l'appropriation culturelle. Puis elle a dit, ben oui, mais moi, je m'en crisse. Puis c'est comme, oui, mais toi, tu t'en crisses. Mais la personne... Et là, c'est tout un grand débat, je trouve, aussi, dans la culture geek, qu'on pourrait faire tous ces parallèles-là, de se dire, comme, elle est où la limite? Parce que, de toute façon, il y a personne qui va être content à 100%.
Les communautés sont pas homogènes.
Exactement.
Pas, discours, c'est juste plein de discours qui se rencontrent.
Mm. Alors qu'on est dans des moments de controverse, où il y a justement il y a beaucoup de personnes qui jappent très fort, on dirait qu'il est homogène.
Oui.
Mais on dirait, en fait, moi, j'ai plus l'impression qu'il est polarisé. Il y a les gens qui disent blanc, il y a des gens qui disent noir, mm-hmm. puis la grisaille dans le milieu, ça fait frapper des deux bords, là.
Oui, mm-hmm. oui.
Donc, c'est souvent ça, c'est ça qui est arrivé avec le Gamergate, c'est ça qui est arrivé avec d'autres type de débat, puis c'est ça, la communauté est pas homogène, elle est juste très très polarisée, puis Internet aide pas, parce que c'est impossible non. d'avoir un débat nuancé sur Internet. Mm. Fait que, surtout, encore moins, c'est souvent sur Twitter que ça se passe. Là.
Oui, oui.
Ouais. Un débat en 140 caractères, l'argument, la shot, là,
c'est... C'était le
Donc, c'est ça. Je pense aussi, c'est ça qui fait aussi que des la communauté se divise à cause de cette polarisation-là et exclue nécessairement. C'est pour ça qu'on est ici pour en parler. Mm.
Mais parlant de polarisation, en tout cas, moi, c'est... Il y a bien, bien avant le Gamergate, alors que moi-même, j'étais pas née, on dirait que j'avais parlé quelque chose quand j'étais petite, même pas, même avant, aux États-Unis, il y a eu un événement, Disco Explosion, donc les entre deux parties de baseball à Chicago, une partie des White Sox, un DJ de radio qui venait de perdre sa job a invité les gens, comme parmi ses dernières interventions au micro, a invité les gens à porter un 45 tours, un 30, un long jeu ou un 33 tours de disco pour les faire exploser entre les deux matchs, pour les faire exploser sur le terrain de baseball. Cet événement a viré en émeute totale. On parle encore de cet événement-là dans l'histoire du rock. Et pendant longtemps, c'était un événement qui était cette émeute.
Mais j'ai pas compris pourquoi il faisait ça.
Mais il aimait vraiment pas le disco.
Parce qu'il aimait pas le disco. C'est
oui,
ça.
Puis les gens ont apporté des disques pour les faire exploser sur le terrain parce qu'il aimait vraiment pas le disco.
Mais comment ça a pu mal virer?
Beaucoup de haine là-dedans. Puis c'est ça, pendant longtemps, ça a été comme une espèce de ce drôle d'événement relié au déclin du disco, parce que c'est en 79, donc c'était vraiment la fin de ce mouvement-là, dans cette forme-là. Mais depuis quelques années, c'est vraiment interprété comme étant la base raciste et homophobe du rock dans toute sa laideur, en fait, là, j'allais dire splendeur, mais comme le contraire. Donc, dans toute sa laideur, donc, le DJ de radio, en effet, il haïssait le disco. Il faut savoir que Chicago est une ville où il y a, tu sais, il y a des ghettos, là, tu sais, il y a des quartiers blancs riches, il y a des quartiers pauvres noirs, là.
Encore aujourd'hui.
Aujourd'hui, oui. Et la musique disco est une musique extrêmement reliée aux Afro-Américains, aux homosexuels aussi, et aussi, et ça c'est peut-être un peu moins, mais aux gens, aux secrétaires blanches de banlieue, les petites madames
qui vont danser,
qui vont danser avec la sacoche devant elles.
La sacoche dans le milieu.
Tout le monde sauf les hommes blancs.
C'est ça, genre. Ouais. Hommes blancs riches et qui ont, tu sais, qui ont le canon du rock, tu sais, dans les mains, là, carrément. Là. Mm. Et c'est de plus en plus, donc, justement, interprété de cette manière-là. Et la fin de l'histoire de ça, c'est qu'aujourd'hui, la musique qui est populaire, c'est une musique qui est extrêmement basée sur le disco. Le disco a gagné, là. T'sais, je suis moi-même une grande fan
de rock.
Cette
année, le disco gagne en tabarouette, là. C'est les tunes qui passent, là, c'est excessivement... Puis c'est très bon.
Oui. Les manières de se mettre en... pour les vedettes de musique, de se mettre de l'avant, la danse... le disco a gagné. Fait que... Dans un sens, moi, comme je sais que c'est très comme idéaliste de dire ça, mais pour le long terme, je ne suis pas désespérée. Je pense que le disco va gagner, donc, et que genre les anti-Gamergate vont gagner.
Mais dans ça, on le ressent encore plus maintenant que Donald Trump a été élu aux États-Unis. Chaque avancée, justement, pour les droits des groupes historiquement opprimés. A un backlash, et en ce moment, on est en train de vivre un des plus gros backlash que j'ai vu dans ma vie. Je suis quand même jeune, fait qu'il y a sûrement des plus gros backlash qui ont existé, mais c'est quand même un très gros backlash qu'on est en train de vivre. Et ça, c'est accompagné justement d'une diversification de la représentation au cinéma, dans les bandes dessinées, beaucoup, beaucoup.
Et de demandes aussi de diversification.
De la demande aussi, mais il y a aussi, justement, il y a la demande d'un côté et la répression de l'autre.
Mm-hmm, oui, oui.
Mais le problème, pour revenir au fandom aussi, c'est que là, on a une grande demande des diversités. Et si on créait des œuvres complètement originales, il n'y en aurait pas de problème. Tu sais, que ton nouveau personnage que tu crées, par exemple, je pense à Sense8. Sense8 qui est une série où tout est représenté, tout le monde est là, des gens de toutes les classes, de toutes les couleurs, de toutes les...
C'est comme à temps plein, cette émission. Je suis la plus vieille. À temps plein, c'est une émission à Télé-Québec, mais à Radio-Québec à l'époque des années 80, où il y avait genre des marionnettes, là, puis tout le monde était représenté.
Oh, cette affaire-là!
Des marionnettes géantes, là.
J'en ai entendu parler.
Ouais. Ben, OK. Ouais. En plein temps, là.
C'est peut-être pas la même chose.
Non, c'est à plein temps.
Et si tu crées une œuvre originale où il y a il y a beaucoup de diversité, les gens vont pas faire comme ah oh, ben là, y a de la... c'est vraiment quand tu touches au sacro-saint canon là que là ça devient compliqué. Puis j'ai un problème aussi, on en avait parlé à mon émission Les Amazones il y a quelques semaines en parlant de Doctor Strange et de tout le phénomène de whitewashing. Fait que tu sais, c'est comme déjà dans le canon t'as des personnages qui sont de couleur et là tu les rends complètement blancs comme neige. Puis des fois c'est comme non,
t'es rends british, mais t'es tellement écoute, blanc que t'es british.
Je, ben voilà, c'est ça, tu sais. Puis ou carrément il y avait une Élie Larrain qui était là, nous disait, elle nous parlait de Avatar de Last Airbender, où est-ce que t'avais des personnages dépendamment de leur origine sur la planète avaient des certaines couleurs de peau, puis les gens qui étaient les méchants avaient une tendance à avoir la peau plus blanche, et là dans le film les gentils avaient la peau blanche et les méchants avaient l'air de venir un peu du Maghreb, justement du Moyen-Orient, donc avaient comme une peau plus brune, ou du moins je ne sais comment le dire, mais dans tous les cas c'était comme bon, ben là t'as pris le canon, tu l'as détruit pour le rendre le méchant de d'Hollywood là, ou je ne sais quoi là. En tout cas bref, c'est des questions
juste répéter les stéréotypes,
ben pas. Voilà,
mais ouais. Ça c'est super intéressant ce que tu dis, parce que là on touche à un autre sujet qui est comment dire le climat dans lequel on produit des œuvres culturelles depuis 5-10 ans. Les blockbusters ne font que se répéter, on fait des reboots, on fait des suites, on fait
des adaptations,
on fait des adaptations, c'est ça, comme on est de moins en moins dans une logique de créer des histoires originales. Les logiques d'histoires originales se retrouvent à la télévision, dans des séries. Donc c'est et ça c'est pour contrer, ben c'est pour essayer d'attirer le plus de monde possible. En tout cas moi, comment je comprends ça?
Ça marche ça avec c'est ça, on fait des reboots, des remakes, des adaptations parce qu'il y a déjà un marché, parce qu'on sait que c'est déjà payant. Mais l'affaire c'est que depuis une quinzaine d'années, les adaptations de bandes dessinées de super-héros, on s'entend que le canon, il date des années souvent des années 60-70, si pas avant.
Même 50.
Mais je me situe dans le Silver Age, le fait que il y a beaucoup de super-héros qui ont... Jean-Michel connaît mieux.
Oui.
Mais c'est ça, c'est déjà blanc, c'est américain, puis dans ce temps-là, tout le monde était blanc. Oui. Ok, fait que tu veux revendiquer le canon, fait que tu vas mettre que des acteurs blancs. Non, là, on est dans les années 2000, on est même plus dans le même siècle. C'est le temps d'évoluer, de faire évoluer les mentalités avec la représentation. Justement, encore là, le fait que ces œuvres-là qui s'inscrivent dans l'industrie culturelle, donc dans les œuvres à consommation de masse, tiennent leur canon du milieu du 20e siècle. C'est sûr qu'il faut faire attention au whitewashing parce que c'est facile à faire. Là.
Et d'où les commentaires, entre autres, de Jean-Michel qui disait les bandes dessinées sont rendues tellement ailleurs que ce que le marché du cinéma nous montre sur le monde du comic. Arriéré, là, on est rendu ailleurs. Là,
depuis quelques années, Marvel prend des très gros risques et en ce moment, c'est en train de payer pour eux autres.
Oui, j'ai entendu parler
vraiment,
de ça.
Justement, ils sont revenus meilleurs vendeurs de comics. Là.
Parlant de Marvel et de rôle et de représentativité au cinéma, j'ai vu la bande annonce de Wonder Woman. Et moi, je connais très peu, je connais rien du canon. Là,
moi non plus.
Je sais juste qu'il existe Wonder Woman. Elle existe, c'est tout. Et j'étais bandée bien dur, là. J'ai comme, c'est sûr que j'allais voir ça. Là.
Ah, mais donc, ça a l'air si bon.
Oui, ça a l'air bon, puis je capote. Puis là, je veux donc introduire la question des rôles modèles. Donc, quand on parle de fandom problématique, souvent, on va dire que, mettons, Britney Spears n'a pas le droit d'avoir des chirurgies esthétiques parce qu'il y a plein de filles, des petites filles ou des filles adolescentes qui... Ben, peut-être pas Britney Spears.
Ou plus récemment avec Miley Cyrus.
Taylor Swift, oui.
Donc, avec sa sexualité exacerbée.
C'est ça, comme, qu'est-ce que
vont... C'est pas un bon role model.
C'est ça. Qu'est-ce que vont penser les petites filles? Est-ce qu'ils vont penser que c'est... C'est correct, legit, ouais, de se montrer en boule.
Pour revenir à ce qu'on discutait hors d'onde, Mégane et moi, un peu plus tôt dans la journée, parce que les petites filles peuvent pas penser par elles-mêmes. Donc, il faut absolument qu'on présente ces femmes-là qui sont de l'image qu'on va se créer.
Mais je veux en parler des role models, justement. C'est comme, moi, je me pose tout le temps la question, existe-t-elle? Puis là, ben, existe-t-il, en fait, un role model? Puis là, je regarde une bande-annonce comme Superwoman, puis comme, elle m'inspire au bout, puis je veux comme juste aller fracasser tout le monde, genre.
Mais je pense que ça existe, mais je pense aussi que le problème, c'est que, par exemple, moi, quand j'étais jeune, je trippais, et je trippe toujours sur Harry Potter. Mais Harry Potter est un personnage... Est-ce que j'ai vraiment envie de ressembler à Harry Potter? Mais
est-ce que tu veux ressembler à J.K. Rowling, là, qui est vraiment awesome, badass?
Je sais pas. Moi aussi, j'ai grandi avec Harry Potter, mais je voulais pas devenir Harry Potter.
Non, c'est ça. Je voulais pas devenir...
Hermione était vraiment un meilleur rôle pour moi parce que je me reconnaissais dans elle, oui. Pas parce que je voulais devenir elle.
Ouais, c'est ça. Puis sinon, plus tard, j'ai découvert le grand monde de Hunger Games. Mm-hmm. J'ai pas envie de devenir... Katniss Everdeen, je la trouve excellente. J'adore ce personnage-là. Je le trouve complexe. Je le trouve intéressant. Je trouve que c'est un bon... C'est peut-être... Est-ce que c'est un role model? Je sais pas, parce que c'est pas une personne virtueuse. Non, puis souvent, c'est des personnes virtueuses qu'on va mettre de l'avant comme étant nos personnages modèles. J'ai l'impression, du moins, qu'on va valoriser. Katniss Everdeen, c'est pas une personne virtueuse. Hermione Granger, c'est une personne virtueuse. On peut donc se valoriser de se dire, si on devient ce personnage-là, c'est bien. Mais en même temps, en tant que... Est-ce qu'on veut devenir des personnages?
Ben, si on prend une vraie personne comme Beyoncé.
Oui,
c'est ça. Mais je pense que c'est moins un modèle que... J'ai un petit peu de misère avec l'idée des role models parce que j'ai pas vraiment eu cette dynamique-là dans ma vie. Mais c'est comme tout, la représentation est très importante. Puis tu parlais tantôt de Finn dans Star Wars, puis comment t'aurais vu ça quand t'étais jeune. Mais moi, ça me rappelle une anecdote que j'ai lue de Whoopi Goldberg quand il y a eu un personnage noir dans Star Trek. Elle est allée voir sa mère, elle a fait « Non, maman, il y a une personne comme moi qui me ressemble dans Star Trek, puis c'est pas une maid, c'est pas une femme de ménage. »
Non, c'est...
Fait que, tu vois, déjà là, la représentation est très importante juste pour donner de l'ambition aux gens, first. Mm-hmm. Puis après, c'est ça, quand on a... Elles n'ont pas besoin d'être vertueux, c'est juste pour leur donner une agentivité, par exemple.
Exactement. Tu sais, juste le fait de... Tu sais, pour revenir encore sur Katniss, là, parce que... Bon, bref. Mais Katniss, c'est une personne qui représente aussi... c'est une personne introvertie. Puis il n'y a pas beaucoup de héros introvertis, surtout des héros femmes introverties.
Héroïnes,
merci, qui sont introverties. Il n'y en a pas beaucoup qui sont peut-être un peu même égoïstes, puis tout ça, puis qui représentent un autre côté où est-ce qu'on va se dire, ben regarde, la féminité, c'est pas juste ça, tu sais. Du moins, en plus, on pourrait partir là-dessus pendant vraiment longtemps, mais Hunger Games est un univers où le sexisme n'existe pas. En partant de ça, est-ce que cet univers-là va devenir un modèle de par le fait que, regarde, c'est vraiment pas parfait, puis il y a énormément de problématiques de classe, mais il n'y a pas de sexisme. Mais il n'y a pas non plus de représentation de l'homosexualité. Donc, bon, là, il n'y a rien de parfait. Mais bon.
Mais en même temps, tu sais, les modèles, je trouve ça important. Puis la représentation est importante. Tu sais, une des choses qu'on pourrait se poser, c'est le fait de, mettons, mettre un personnage noir ou un personnage LGBT, est-ce que cette personne-là va nécessairement devenir ce qu'on appelle en anglais un token black, par exemple?
Oui, je sais.
Ou être nécessairement, si, mettons, on met une fille ou un groupe de filles qui seraient des super-héroïnes, que, OK, ça deviendrait automatiquement un film féminin, qu'on classerait ça automatiquement comme étant un film... Pas un film en général, un film noir ou une série féminine. Ben,
c'est ce qu'on vient de voir avec avec les Simone qui vient de jouer à Radio-Canada. Je veux dire, c'est une série qui met en place des personnages féminins. Fait que là, ça a été qualifié d'une série de filles.
Ben,
puis
ils
essaient de se battre de... Non, écoutez, pas Kim Lizette Lévesque, la co-auteure qui a dit non, il y a pas d'affaire de gars pis de filles, là, c'est ridicule, là, passer à autre chose. Mais t'avais quand même des Ricardo Traduit de ce monde qui disaient non, mais je vous jure que c'est pas une série de filles. Puis c'est comme, oui, mais il y a aucune...
C'est quoi une série de filles?
C'est quoi la... Bon, ben là, puis on pourrait partir sur des heures sur justement c'est quoi la féminité, mais tu sais, de se dire ça n'a pas lieu d'être. Une série policière, vas-tu faire comme, ben là, on n'est pas une série de gars, tu sais, c'est comme, ben non, il n'y a pas ça.
Parce que quand c'est des affaires pour les gars, c'est universel.
Le récent scandale avec l'annonce des galas juste pour rire.
C'est ce que j'allais souligner.
Vas-y.
non, vas-y.
C'est ça, mais justement, ils ont annoncé un gala avec que des humoristes femmes, mais qui n'ont pas vraiment rapport, leur humour n'a pas rapport entre elles.
Donc, alors que c'est supposé être aussi, l'autre détail, c'est que c'est une série de galas qui va être l'ADN de l'humour,
ouais,
donc il va avoir vraiment des thèmes d'humour très...
Mais c'était comme,
qu'on connaît,
l'humour absurde, stand-up et compagnie. Puis là, il y a femme.
Alors qu'une femme peut faire de l'absurde,
c'est une personne.
C'est un gender.
c'est un gender parmi tant d'autres.
Virginie Fortin le disait. Elle disait, je mesure 5 pieds 6. Est-ce que nécessairement on va faire une série pour les filles qui mesurent 5 pieds 6? Mm. On pourrait m'appeler. Mais plus sérieusement, c'est vrai que c'est un peu, absurde, justement, de nécessairement, tu sais, être une femme, c'est pas une catégorie d'humour, c'est pas une catégorie de film ou de livre, c'est...
Ben, il y a la chiclette, là, mais...
Mais
en même temps, est-ce que c'est nécessairement... Exact. Pour les femmes. Ouais. Ouais. C'est quoi être une femme? Est-ce que c'est quoi?
Oui.
C'est ça.
Ces catégories-là sont... moi, je reviens souvent à mes questions de valeur, mais c'est une manière de coder ça dans la librairie, donc dans un endroit physique. Faut que tu mettes ça quelque part.
C'est une classification.
Oui, c'est ça.
Mais
pour aider les libraires.
Ça devient une manière de hiérarchiser.
Et ça devient aussi une manière de hiérarchiser. Et la chiclit, on n'a pas besoin... On a juste besoin de dire le nom pour... qu'on sache que ça
va pas de la merde.
C'est ça, quand ça va pas de la merde, c'est ça. Donc, n'importe quoi qui est associé finalement aux femmes et, en tout cas, bon, là, je parle dans mes affaires, mais
pour les filles, tu sais, je parlais de la chick lit, mais même dans les trucs plus classiques, le club des babysitters, ou Anne la maison pignon vert, qui sont des choses vraiment classées comme étant féminines. Et qui ont pris du temps à être prises au sérieux.
Anne, oui. Anne, il n'y a pas de problème, parce que ça fait 100 ans, genre. Mais, oui, tu sais,
les babysitters. Il y a de ça. Puis même, Anne, ça a pris des années avant que l'auteur soit prise au sérieux, malgré tout, et soit considéré comme un classique canadien. Hein?
C'était pour enfants et pour les pour les jeunes filles. Exact. Donc, imagine, tu vois, l'intersection. Wow, la double intersection.
Exact.
De pas bon. donc, ça finit bien, oui. Et nous allons terminer l'épisode là-dessus. Je vous rappelle que vous pouvez aller voter pour Pop en Stock sur votre logiciel avec lequel vous... logiciel? Je suis née en 1981. Sur l'application sur laquelle vous l'écoutez. Donnez-nous 400 étoiles, donnez-nous le maximum d'étoiles. C'est comme ça qu'on va être référencé. C'est comme ça que plus de personnes vont nous connaître. Aussi, allez sur le site web Pop en Stock pour donner à notre Patreon. On va donner de l'argent à des personnes pour qui nous créent des œuvres d'art juste pour nous. Et là-dessus, je vous quitte. Moi, je vous retrouve la semaine prochaine. On va parler de boissons.
Oh.
Au revoir.